Chapitre 14. Des pas dans la glace. Il avait gelé pendant la nuit. Une fine couche de verglas recouvrait le sol boueux de la forêt et les pas des enfants la faisaient craquer. Même ceux du plus maigre et du plus léger d'entre eux, ceux d'Agnel. La couche de glace, en se brisant, libérait des tapis de feuilles prisonnières, parfois aussi des insectes, des fourmis, des scarabées, des vers. Agnel régulièrement demandait au groupe de s'arrêter et étudiait le sol, la terre, la boue. Examinait les empreintes figées par le gel. Des empreintes d'oiseaux, le plus souvent. Les 5 autres enfants de la patrouille du tipi, Gulo Gulo, Pépin, Suzy, Auriel et Noam, l'observaient, étonnés. Agnel, accroupi, réfléchissait. Suivait du bout des doigts des petits traits qui tous semblaient identiques, puis se relevait en indiquant « Une poule pintade !» Blessée. Elle ne peut plus voler. Elle cherche à manger. Son nid doit se trouver à moins de 10 mètres devant nous. Ils erraient déjà depuis plusieurs jours dans la forêt, dormaient auprès d'un feu la nuit en se serrant fort les uns contre les autres, par peur du lupo nero, se nourrissaient des fruits secs qu'ils avaient emportés, des graines de maïs et de blé, de champignons et de racines. Chaque jour, ils s'enfonçaient plus profondément dans les bois, occupés à graver des marques sur les arbres pour se repérer, à noter les lieux où les animaux leur semblaient malades ou en bonne santé, à dresser un plan des endroits où l'on pourrait ou non chasser. Chaque jour, tout en marchant sans cesse, ils espéraient trouver un coin de forêt préservé ou, mieux encore, découvrir l'origine du mal. Ce mal dont ils ignoraient tout. Hors de question de retourner au tipi sans apporter de bonnes nouvelles. Ils étaient tous d'accord. Le sort de la tribu entière dépendait d'eux. Alors ils suivaient, derrière Agnel, les minuscules traces d'une pintade invisible. Soudain, Agnel se figea. Et tous les autres enfants aussi. Tous l'avaient vu. Il ne s'agissait pas cette fois de 3 traits palmés d'une patte d'oiseau que seul Agnel savait reconnaître. Non. Tous observaient, bouche bée, une autre trace, nette, simple à reconnaître, et pourtant impossible à admettre. Une trace de pied. Un pied d'enfant, et même plusieurs pieds d'enfant. Pas les leurs, ils n'étaient jamais venus ici, aucun arbre à proximité n'était marqué. Tous comprenaient ce que cela signifiait. D'autres enfants était passé là, très peu de temps avant eux. Tous l'avaient vu. Il ne s'agissait pas cette fois de 3 traits palmés d'une patte d'oiseau que seul Agnel savait reconnaître. Non, tous observaient, bouche bée, une autre trace, nette, simple à reconnaître, et pourtant impossible à admettre. Une trace de pied. Un pied d'enfant. Et même, plusieurs pieds d'enfant. Pas les leurs, ils n'étaient jamais venus ici. Aucun arbre à proximité n'était marqué. Tous comprenaient ce que cela signifiait. D'autres enfants étaient passés là. Très peu de temps avant eux. Sous la glace craquelée, on apercevait la boue encore meuble. Ces enfants étaient passés ici la veille, peut-être même ce matin.
Tu crois que le lupo nero a des pieds d'enfant ?
Demanda Pépin, terrifié.
Des pieds comme nous ?
Peut-être qu'il en a 8 ! Continua Suzy en regardant le piétinement des pas.
Comme les araignées !
Seul Noam ne disait rien. Il se contentait de claquer des dents en roulant des yeux ronds. S'il savait, mieux qu'aucun autre garçon, épier chaque bruit de la forêt, il était muet depuis sa naissance, ou du moins d'aussi loin que ses compagnons puissent s'en souvenir. Tous tremblaient, se blottissant les uns contre les autres. La poule pintade ne comptait plus. Des branches d'arbres craquèrent autour d'eux, ajoutant à leur effroi. Des fougères s'agitèrent, des feuilles tombèrent comme si le lupo nero était partout autour d'eux, comme s'il pouvait les encercler à lui tout seul. Les enfants serrèrent entre leurs poings leurs armes dérisoires. Des petits filets tressés pour attraper les rongeurs, de minces et courts bâtons taillés en poignards, dont il s'était seulement servi contre des lapins ou des écureuils.
« Il y a quelqu'un ?»
osa demander Agnel.
« C'est le louponero !»
cria soudain Pépin, prêt à s'enfuir. Trop tard. D'un coup, toutes ensemble, les fougères autour d'eux s'écartèrent et une dizaine d'enfants surgirent. Des enfants de leur taille, de leur âge, ni plus forts, ni plus grands. Juste un peu plus nombreux, et surtout, armés. Ils portaient de longs bâtons qu'ils faisaient tournoyer, formant un cercle infranchissable autour d'eux. Enfin, ils cessèrent de les agiter, mais continuèrent de les tenir levés, inclinés au-dessus de la tête des enfants du tipi, formant un chapiteau de bois prêt à s'écrouler et à les frapper. Tant pis. Suzy, la plus intrépide de la patrouille du tipi, avança, poignard au poing. Noam, pendant ce temps, ramassa un caillou et tendit le bras pour le jeter.
« Ils ont faim, » murmura Gulo-Gulo à l'oreille d'Agnel. « Ils sont comme nous. Ils ont faim. »«
On ne vous laissera pas nous manger !»
cria Suzy, pointant son poignard en avant. Le long bâton s'abattit d'abord sur sa main, la forçant à lâcher son arme, puis sur son épaule, la projetant au sol. Dans le même moment, un autre bâton frappa Noam au bras, l'obligeant à laisser tomber, sans un cri, sa pierre par terre. Les enfants du château semblaient déterminés, car c'était eux, tous l'avaient deviné. Silencieux et déterminés.
« Tant pis !» pensèrent encore Pépin, Gulo-Gulo et Auriel. « Nous n'avons plus rien à perdre !»
Ils s'accroupirent à leur tour pour ramasser tous les projectiles qu'ils pourraient jeter, et peu importait s'ils mouraient sous les coups des longs bâtons, mieux valait ça que se rendre sans se battre. Les enfants du château crispèrent leurs doigts autour de leurs armes de bois. Les baissèrent encore davantage, à moins d'une dizaine de centimètres au-dessus des têtes.
« Non !»
fit Agnel en levant la main. Ils étaient en infériorité, sur tous les plans. Le combat contre la tribu ennemie y allait tourner au massacre.
« Non !»
répéta Agnel. Il fut surpris de l'écho qui se prolongea.
« Non !» avait également prononcé l'un des garçons du château. Celui qui avait parlé posa son bâton au sol, puis leva lui aussi les mains en signe de paix. Il quitta le cercle des enfants armés et s'avança vers ceux du tipi. Tous se tenaient sur leur garde. Pépin et Suzy cachaient deux cailloux ronds dans le creux de leurs paumes. Si jamais ils touchaient à Agnel... Le garçon du château désarmé baissa l'une de ses mains et la tendit vers Agnel. Agnel, sans réagir, l'observa en essayant de masquer sa surprise, mais il ressemblait plus que jamais à un échassier apeuré. L'enfant du château insista, approcha encore sa main tendue.
« Agnel, je présume ?»
L'enfant échassier faillit en tomber à la renverse. Ce garçon connaissait son nom ?«
Zizo m'a beaucoup parlé de toi, » ajouta-t-il. « Mon prénom est Solario. » Un immense sourire fendit le visage d'Agnel.
Il accepta la main tendue.
« Il va bien ?»«
Oui, très bien. » Solario observa les alentours, le gel sous leurs pieds, la forêt menaçante, le froid qui leur blanchissait les doigts.
« Mieux que vous !»
Ils sourirent. Alors que les autres enfants du château continuaient de menacer ceux du tipi de leur beau, Solario prit le temps d'expliquer leur présence dans la forêt. Tous cherchaient la même chose, l'origine de ce mal mystérieux qui empoisonnait la chair des animaux. Même si eux n'en mangeaient pas, les enfants du tipi parurent surpris à cette révélation, ils avaient conscience que l'équilibre de la nature pouvait en être détruit.
« C'est un piège !» murmura Gulo-Gulo à l'oreille d'Agnel. « S'il ne mange pas de viande, pourquoi voudrait-il nous aider ?»
Agnel, d'un signe de la main, lui ordonna de se taire. C'était la première fois que des enfants du château et du tipi se tenaient aussi proches, se parlaient. Ils vivaient un instant historique.
« Tu proposes quoi ?»
demanda Agnel. « Unir nos forces, » répondit Solario.
« On t'apporte nos connaissances. Vous, vous apportez votre expérience. On sera plus efficace ensemble. »«
On ne peut pas leur faire confiance !»
chuchota cette fois Suzy derrière Agnel, mais suffisamment fort pour que tous entendent. Je crois que nous n'avons pas le choix, décréta Agnel. Ils auraient pu nous massacrer avec leurs armes. Ils peuvent encore le faire. Solario a raison. Nous serons plus forts ensemble. Y compris contre le Luponero.
Ce dernier argument sembla suffire à convaincre les membres de l'expédition du Tipi.
Nous suivions les traces d'une poule pintade blessée, expliqua Agnel aux garçons et filles du château. Visez-la, pour qu'elle retransmette l'information à tous ceux du château. Lui indiquer que la mission progressait et que, plus important encore, grâce à cette jonction opérée dans le lieu le plus neutre qui soit, la forêt, pour la première fois, des enfants du château et des enfants du dehors s'entraidaient. Tout allait bien. Jamais cela n'avait été aussi bien. Voilà le simple message que Solario voulait envoyer à sa sœur. Les yeux fermés, concentré, proche de l'hypnose, le garçon ne pouvait voir l'ombre qui, quelques mètres au-dessus de lui, cachée dans le feuillage de l'arbre, l'observait.